Studio Tamani, voici les informations en français.
Les étudiants de l'école normale supérieure et de trois facultés de Bamako ont manifesté ce matin leur ras-le-bol des grèves incessantes des enseignants. Ils exigent la reprise immédiate des cours. À quelques jours des épreuves écrites du DEF, le Centre national des examens et concours innove son dispositif de surveillance de l'examen. Un accident de circulation a coûté hier la vie à trois personnes sur l'axe Niafunke-Tonka dans la région de Tombouctou. 9 autres ont été blessés, dont 5 cas graves. Voilà pour le sommaire de cette édition. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal présenté par Hamsetou Touré. Les étudiants de l'école normale supérieure et de trois facultés de Bamako ont manifesté ce matin pour exiger la fin des grèves des enseignants et la reprise immédiate des cours. La manifestation a commencé de la faculté des sciences et techniques à la direction générale de l'enseignement supérieur. Les syndicalistes d'enseignants observent un arrêt de travail depuis 3 semaines. Et cela après une série de grèves au mois de janvier dernier. Ils réclament entre autres l'amélioration des conditions de vie de l'enseignant supérieur, la sécurisation de l'espace universitaire et la séparation du statut enseignant et enseignant-chercheur. Les détails avec Imran Akilou Maïga.
Trop c'est trop, on veut étudier, scandaient les étudiants manifestants. Ils exigent un enseignement de qualité au niveau supérieur mais aussi secondaire. Nelga Dembélé, porte-parole du mouvement des étudiants manifestants.
Suite à un mot d'ordre de grève des syndicats de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il y a de cela 2 mois et plus. Et qui rendit illimité les étudiants des instituts publics d'enseignement supérieur sont victimes et privés de leur droit à l'éducation. Nous lançons un cri de cœur à toutes les couches impliquées.
Selon le syndicat national de l'enseignement supérieur, cet arrêt de travail s'explique par le mutisme des autorités. Dr Alou Diarra, secrétaire général du comité exécutif national du syndicat national de l'enseignement supérieur.
Le gouvernement est resté sur sa position, c'est-à-dire le mépris total. C'est ce qui nous a amené à cet arrêt de travail. Nous réclamons 9 points. Premièrement, la prime de recherche depuis 2017. Le second point, c'est l'indice 3000. Il y a une ancienne question qui date de 12-13 ans. La séparation des statuts enseignant-chercheur et chercheur.
Ces arrêts de travail se déroulent au moment où plus de 15 000 bacheliers de 2022 n'ont toujours pas commencé l'année universitaire dans les facultés choisies. Malgré toutes nos sollicitations, le ministère de l'Enseignement supérieur n'a pas voulu réagir.
La Fédération nationale des parents d'élèves s'est dit engagée à trouver un consensus entre les deux parties concernées. Toutefois, elle reconnaît que la situation devient de plus en plus insupportable. Daouda Sako, secrétaire général adjoint de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves du Mali, il est au micro de Imran Akilou Maïga.
Les étudiants, ils sont dans leur droit de réclamer les meilleures conditions d'études pour arriver à accéder à un avenir radieux. Nous avons rencontré les tendances qui sont dans cette situation désagréable au niveau du supérieur pour faire entendre la raison et vraiment le bon sens. J'espère que nous y parviendrons parce que c'est une cause nationale. On ne peut pas indéfiniment laisser les étudiants dans la rue. Et pour les flux, nous sommes au courant qu'il y a des bacheliers près de 15 000 qui étaient encore dans une situation très désagréable parce qu'ils n'avaient pas trouvé de place. Alors l'inquiétude va grandissante parce que cette année encore, il y aura des bacheliers. Alors il faudrait que nous voyons une gestion beaucoup plus efficace des flux.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Je l'annonçais tantôt dans les titres, 3 morts et 9 blessés, dont 5 cas graves évacués sur Tombouctou. C'est le bilan d'un accident de la route survenu hier sur l'axe Niafunke-Tonka dans la région de Tombouctou. Selon les témoins, c'est un camion qui a écrasé un tricycle. Le commandant de la brigade de la gendarmerie explique que le drame est dû à la négligence et le non-respect du code de la route. Le camion et son conducteur sont retenus à la gendarmerie pour les besoins d'enquête. Il faut préciser que les victimes rentraient de Niafunke. Ils étaient venus pour se faire enrôler pour la carte biométrique. Autre titre de ce journal, les épreuves écrites du diplôme d'études fondamentales démarrent le lundi prochain 22 mai. Pour cette année, le Centre national des examens et concours annonce de nouvelles innovations. Au même moment, le syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016 a invité ses militants à jouer leur partition pour la bonne tenue de l'examen. Le point avec Djahara Faskoïa.
Pour ces épreuves écrites, le Centre national des examens et concours a formellement interdit aux candidats les téléphones ou autres objets électroniques dans le centre. À cela s'ajoute une fouille corporelle de chaque candidat depuis l'entrée du centre. Le directeur Mahamadou Keïta prévient que tout candidat pris avec un téléphone à l'entrée du centre est exclu de l'examen. Dans la mesure également, une sortie temporaire ne pourrait être accordée aux candidats qu'une seule fois. Ces mêmes mesures concernent aussi les surveillants. Aucun surveillant n'accédera à la salle avec un téléphone portable ou autre document. La direction a instruit au président des centres d'interdire aux surveillants de sortir du centre pendant une épreuve. Ceux qui en sortent sans autorisation sont remplacés durant le reste de l'examen. Au même moment, les syndicats de l'éducation, signataires du 15 octobre 2016, demandent à ces militants d'éviter toute activité susceptible d'entacher la bonne marche des examens de fin d'année. Ils les invitent également au respect de la police de surveillance.
Les journalistes de Studio Tamani se sont familiarisés avec le processus électoral au Mali. Les modules étaient axés sur les techniques de règles de sécurité, de défense, de l'éthique journalistique, d'indépendance éditoriale et de vérification des faits en période électorale. La session qui a pris fin ce mercredi visait à contribuer à une information éclairée de l'opinion et de l'électorat. Il s'agissait aussi pour les bénéficiaires de produire des informations sans avoir à subir des menaces physiques ou morales. Sadou Yattara, journaliste et formateur de cette session de formation, réagit au micro de Imran Akilou Maïga.
Le journaliste doit toujours se rappeler qu'il a une mission fondamentale. La mission fondamentale, c'est toujours amener les électeurs à faire les bons choix. Ce n'est pas succomber à la propagande tout court, parce qu'en temps d'élection, il y a beaucoup de gens qui promettent des choses, eux-mêmes savent qu'elles sont irréalisables. Mais le journaliste doit écouter rigoureusement, analyser et porter une information digeste pour que ses auditeurs comprennent, pour que ses lecteurs comprennent, pour que ses téléspectateurs comprennent ce dont il est question. Une élection municipale, une élection législative, une présidentielle, un référendum, c'est extrêmement important de montrer les enjeux à tous les niveaux du reste, et c'est tout de l'importance et ce qu'on a en votant oui ou en votant non, c'est extrêmement important parce que ce droit-là aussi appartient à l'électeur.
Moha Yattara, un boucher de la ville de Gao, a été enlevé hier chez lui à Bagoundié par des hommes armés non identifiés. Selon des sources locales, la cause de son enlèvement est toujours inconnue pour le moment. La gendarmerie a ouvert une enquête pour le retrouver. À noter qu'il avait échappé à plusieurs tentatives d'enlèvement. Le référendum n'est possible que si la sécurité revient, soulignent les populations des zones en proie à l'insécurité au nord et au centre du pays. Par contre, d'autres citoyens affirment qu'il est bien tenable à la date indiquée. Suivant leur réaction de Sikasso Adiré, en passant par Ségou et Bandiagara dans la rubrique, on en parle.
C'est difficile que le référendum puisse se tenir sur toute l'étendue de la région de Sikasso parce que l'insécurité vraiment est élevée pour tenir des élections partout.
Et le référendum est bel et bien tenable ici à Ségou. Et puis quand tu vois les pays, le référendum peut même être tenu à Kidal. Parce que la situation dans laquelle le Mali se trouve là, c'est une situation créée de toutes pièces, une guerre qui nous a été imposée.
Tenir le référendum chez nous à Bandiagara me paraît compliqué parce que Bandiagara est composé de 28 communes, pas plus de 8 communes qui sont en sécurité.
Par rapport au référendum, il est possible si l'État joue son rôle régalien, à savoir sécuriser les zones, surtout le Gourmandiri.
Lundi 22 mai, jour du 2F, diplôme d'études fondamentales. Dans notre chronique du jour, nous faisons zoom sur ceux qui se préparent pour l'examen, ceux qui espèrent sur un coup du sort ou encore ceux qui espèrent sur une fuite de sujet. Et c'est avec Mariam Maïga.
La panique se lit déjà sur le visage de Mamie. Elle s'empresse d'apprendre les leçons non apprises depuis le début de l'année. Mamie est même abonnée à la maison. Plus de sorties, plus de télé. Son cahier et le tableau de la maison sont devenus ses fidèles compagnons. À l'inverse de Mamie, sa cousine Aïcha se tourne vers la prière et la mise en place de stratégies pour tricher. Après deux échecs, le DF 2023 est sa dernière chance. Depuis une semaine, elle se lave avec des médicaments traditionnels et en bois également. Aïcha n'hésite pas à attacher autour de ses hanches des gris-gris ou décorer son stylo avec pour le jour de l'examen. Khalil, lui, il n'a jamais eu le temps d'apprendre. Il connaît toutes les techniques de tricherie. Pour ce DEF 2023, il est presque dans tous les groupes WhatsApp. Il compte sur une fuite de sujets pour réussir à son examen. Ainsi donc, il est aux aguets de tout sujet de DEF. Cher candidat, tricher à un examen est considéré comme une fraude et suivi de sanctions administratives ou pénales selon le cas. Alors, évitez de prendre des risques qui vous empêcheraient de passer ou repasser tout examen de l'éducation nationale. Sur ce, bonne chance à tous.
Nous recevons à présent Imrana Kilou-Maïga pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Imrana, alors de quoi parle le Grand Dialogue de ce soir?
Bonsoir Amsa Touré, ce soir nous allons évoquer le rôle et place des femmes dans la lutte contre la corruption et nous serons avec Mariam Diamant, présidente de la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption, Adam Diko, directrice exécutive de l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie à Jika de Mali et Moussa Ousmane Touré, président de l'Association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière.
Merci Imrana. Vous pouvez retrouver ce journal sur la plateforme Viamo en appelant au 37 321. Vous pouvez aussi le retrouver ainsi que toutes les productions de Studio Tamani sur l'application Studio Tamani disponible sur Play Store. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Hamsetou Touré à la mise en onde Salim Djouara. Restez à l'écoute tout juste après le spot, le magazine Santé. Le Centre régional d'appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle de Mopti a été créé en avril 2021. Selon les responsables, le service est un démembrement du Centre national d'appareillage orthopédique du Mali. Son objectif, l'appareillage et la rééducation fonctionnelle des patients déficients physiques. Situé à quelques mètres de la gare routière de Sévaré, le centre a une capacité de plus de 2000 patients. Comment la prise en charge est organisée? Combien de séances sont nécessaires pour qu'un sujet soit autonome? La réponse dans ce magazine santé réalisé à Mopti par notre envoyé spécial de retour, Mamadou Samasekou.
En plus des victimes de conflits, le centre prend aussi en charge des patients de divers horizons. Docteur Amadou Kenta est le directeur régional du centre. Il explique les principales missions de ce service.
Le centre a pour mission la production d'appareillages orthopédiques, c'est-à-dire un membre qui est amputé. On le remplace par un appareil, là on parle de prothèse. Et l'orthèse, c'est un appareil qui vient soutenir un membre qui est déficient. Donc on le soutient par ce qu'on appelle une orthèse. Nous fournissons aussi des services de rééducation, notamment la kinésithérapie.
Un adolescent accidenté de circulation amputé d'une jambe, un sexagénaire souffrant d'un nerf coincé et un parent d'un bébé de 4 mois victime de déformation sont entre autres patients rencontrés sur place. Ils ont accepté de se confier à notre micro.
On a opté pour les soins traditionnels. On est venu à l'hôpital et ils nous ont dit qu'il n'y a pas de solution, sauf l'amputation. Et on est venu aujourd'hui pour la prothèse.
Bon, j'avais un nerf qui était coincé entre les vertèbres. Ils ont opéré pour libérer les nerfs et ça commence à aller.
J'ai amené mon homonyme. Elle a des problèmes au niveau de la cheville dès à la naissance. Donc on a commencé les soins, on a commencé le traitement. On vient, on met le plâtre. Et on n'a pas eu trop de problèmes.
La direction du centre indique qu'un programme de réhabilitation appelé PRP, piloté à 100% par le CICR, prend en charge les patients démunis. Elle affirme qu'en plus des victimes de conflits, le centre prend aussi en charge des patients divers horizons. Docteur Amadou Kenta, directeur du journal du KRAO RF de Mopti.
Cas où le patient il est démuni, victime de conflit par exemple, qui est victime d'une amputation de membres, quand le patient a besoin d'appareillage, après la consultation, s'il rentre dans les critères de prise en charge du projet PRP du CICR, il est pris en charge à 100%. Les autres cas, vous payez la consultation 1500 et chaque séance coûte 1000 francs. Les militaires en cas de blessure de guerre sont aussi appareillés ici à notre niveau. Présentement, il n'y a pas un militaire qui est en cours d'appareillage.
Des responsables affirme que, par l'intermédiaire du partenaire CICR, l'essentiel des patients traités au centre provient du service des urgences de l'hôpital régional de Mopti. Souleymane Koulibaly, chef des urgences de l'hôpital régional Soumino Dolo de Mopti.
Qui parle de blessés de guerre, tu parles de fractures. Après la prise en charge des fractures, c'est la récupération fonctionnelle qui est là. Et sans le centre, vraiment, c'est difficile de gérer. Nous, nous recevons les malades, surtout si c'est des malades graves. Ils vont d'abord au bloc opératoire, ils sont opérés. Après la guérison, ils nécessitent une récupération fonctionnelle. C'est le CICR qui les adresse au centre.
Le CICR qui a construit et équipé ce centre estime être dans son rôle de venir au secours des victimes de conflits armés. Christian Harifidi, Rafa Matanazol, responsable du département de réadaptation physique du CICR.
Même avant la crise, nous étions ici, mais à cause de la crise, je peux dire que les demandes ne cessent d'augmenter. Il y a le Kraouef de Gao. Nous sommes aussi à Tombouctou, bien sûr ici à Mopti et à Bamako. Donc on soutient les démembrements du Centre national d'appareillage orthopédique du Mali. Mais nous intervenons aussi sur l'inclusion de ces personnes en leur donnant aussi des opportunités d'activités génératrices de revenus pour qu'ils arrivent eux-mêmes à subvenir à leurs besoins.
Selon la direction du centre, la rééducation peut prendre jusqu'à 30 minutes par séance de kinésithérapie et les patients doivent faire 3 séances par semaine. Elle ajoute que cela peut donc prendre plusieurs mois.